qui, aujourd'hui en France, ne connaît pas Thomas Piketty ou Julia Cagé lorsqu'il s'intéresse un minimum à l'histoire, les sciences sociales, la politique et encore l'économie. En effet, ces deux grandes stars de l'EHESS, qui sont invitées sur tous les plateaux télé, présentes à la fois dans la vie politique et universitaire, sont venues présenter leur livre à l'ENS de Lyon.
Déjà, merci beaucoup.
Hein ?
Merci beaucoup d'avoir fait cette conférence, c'était très instructif. Merci beaucoup pour les données aussi, qui nous servent au quotidien dans nos études. Là, on a encore des projets à faire et on va utiliser une partie de vos données. Donc, je propose, Lina, que tu commences à poser tes questions.
Oui, alors en fait, justement, moi j'ai trouvé ça très intéressant que vous ouvriez avec André Siegfried et Paul Blois. Et je voulais en fait vous proposer de revenir sur ce que vous avez expliqué tout à l'heure, à savoir comment est-ce que ça se fait en fait que ce type d'analyse à l'échelle communale n'ait pas été conduite finalement depuis 1960 avec le travail sur la Sarthe.
Il y a différentes raisons. Enfin, d'une part, il fallait avoir envie de le faire. Non, mais ça a été un travail long. Et c'est pour ça qu'on montrait les archives au départ. C'est pas un travail que vous pouvez automatiser. C'est pas un travail que vous pouvez entièrement déléguer. Mais c'est quand même un travail aussi pour lequel on a bénéficié de financements publics. L'un comme l'autre, notamment, on a eu des gros financements publics européens. Ce qui a permis de rémunérer des gens, notamment aux archives nationales. En tout, c'est quasiment 50 données. Et c'est deux personnes à temps plein pendant 3 ans qui font des scans aux archives nationales. Donc voilà, il y avait déjà ce fait-là. Puis il faut aussi, d'une certaine manière, avoir un petit grain de folie, enfin un amour des données et des archives. C'est-à-dire qu'on a pris un vrai plaisir finalement à se replonger dans ces bordereaux électoraux ou dans les situations financières des communes et à reconstruire ces données-là. Voilà. On a la chance d'être rémunéré pour le faire. C'est ça qu'il faut dire aussi. C'est un peu la beauté des postes d'enseignants-chercheurs et d'enseignants-chercheurs en sciences sociales. Et puis il y a un peu de progrès technologique au niveau du stockage des données. Oui. C'est-à-dire qu'on peut stocker des données massivement sur le site. Ensuite, on peut faire de la cartographie extrêmement efficace avec des zooms qui vont extrêmement vite, tout ça parce que les informaticiens et parce que les capacités de stockage ont aussi énormément progressé. Mais il y avait cette idée, je pense que c'était aussi un choix méthodo, ce que rappelait Thomas tout à l'heure, c'est qu'avec les enquêtes électorales, on a un peu perdu le goût de l'histoire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les enquêtes, peut-être que dans les années 80, 90, 2000, il y a des chercheurs qui auraient eu la même idée. Mais comme la science politique électorale s'est beaucoup tournée vers les enquêtes, elle a oublié de faire ça d'une certaine manière. Et donc nous, on a décidé de se lancer là-dedans.
J'ai observé le même phénomène un peu dans mes recherches précédentes sur l'histoire des inégalités, des répartitions de revenus et de patrimoine. C'est-à-dire que le développement des enquêtes par sondage auprès des ménages à partir des années 70-80 avait focalisé la recherche sur cet outil qui est un outil passionnant, évidemment, parce que vous pouvez poser des questions que vous n'avez pas dans les données électorales au niveau communal ou dans mes données historiques sur les revenus, les successions. Mais quand même, l'immense avantage de ces sources communales, de ces sources administratives, c'est que vous pouvez remonter dans le temps beaucoup plus loin. Et ça nous paraît vraiment essentiel. Et donc, si ça n'a pas été fait avant, je pense que c'est en partie parce que des nouveaux outils, des enquêtes sont apparus qui ont focalisé la recherche sur l'hyper contemporain, sur les toutes dernières décennies. Et puis peut-être aussi une coupure excessive à l'intérieur des sciences sociales, entre histoire, sociologie, sciences politiques, économie, des approches quantitatives qui parfois ont été un peu négligées par des historiens qui, à l'époque de l'école des annales, des années 30 jusqu'aux années 70-80, il y a beaucoup de travaux d'historiens, Paul Blois, qui vraiment n'ont pas peur d'aller dans les sources quantitatives, qui vont regarder le niveau des revenus, des salaires, les propriétaires, la répartition des terres, que les historiens ont parfois un peu laissé tomber. Et donc, mais on espère que tout ça est pas, voilà, peut encore changer. Et donc c'est dans cet esprit qu'on développe cette approche.
Très bien. Je vais faire une dernière question et après on va vous laisser partir. Ça me fait penser ce que vous dites ici. Est-ce que, par exemple, vous pensez que l'enseignement aujourd'hui en économie, même dans les autres sciences sociales, n'est justement trop orthodoxe dans le sens où vous parlez, pendant la conférence, vous avez parlé de passeport entre les disciplines, etc.
Bah non, on pense qu'il ne devrait pas y avoir une spécialisation disciplinaire aussi forte et aussi marquée dès la première année de licence pour commencer. Enfin, je veux dire, un jour, ce qu'on fera peut-être, enfin, on en parle depuis longtemps, ça serait d'avoir un manuel de première année, mais justement qui ne sera pas un manuel de première année d'université en économie, mais en sciences sociales, parce qu'il faut cette approche beaucoup plus pluridisciplinaire. Ça se pose même avant. D'ailleurs, parfois au lycée, on peut se dire pourquoi on a cette séparation entre l'histoire et entre les sciences sociales, alors qu'on devrait avoir une approche, pourquoi on n'a pas de sciences politiques non plus, une approche plus pluridisciplinaire. pluridisciplinaire et ça devrait être davantage valorisé. C'est pas valorisé dans beaucoup d'endroits aussi, parce que derrière, voilà, les publications, les revues à comité de lecture, elles se font beaucoup par discipline, ce qui fait que par exemple vous avez un peu une aberration en économie où le livre, pas un outil qui est vraiment valorisé. Donc il y a énormément à faire de ce point de vue-là. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, quand même, les économistes ont une grande part de responsabilité, parce que pendant longtemps, c'est quand même une discipline qui a voulu un peu se présenter comme meilleure que les autres, du coup en voulant se vendre comme une espèce de science dure. En fait, pour se présenter comme une science dure qu'elle n'était pas, elle a voulu beaucoup se mathématiser. En fait, elle s'est coupée des autres disciplines qui ont quand même un peu regardé les économistes à raison comme des abrutis. Donc ça rend pas forcément le dialogue très facile. Et ouais, bah nous, on espère aussi ça, avec ce qu'on fait, convaincre les étudiants, mais aussi nos collègues, qu'une approche plus pluridisciplinaire est préférable et plus riche d'une certaine façon.
La spécialisation disciplinaire doit vraiment intervenir le plus tard possible, et si possible jamais. Alors nous, on a la chance, parce qu'on a des postes universitaires, de pouvoir se moquer un peu de cette division disciplinaire. Pour des jeunes chercheurs, des doctorants, c'est vrai que malheureusement, on se retrouve souvent à devoir un peu les obliger à leur dire, bon, bah, si tu veux un poste en économie, il va falloir plutôt écrire ce genre d'article. Si tu veux un poste en histoire, c'est une autre histoire. Et voilà, on est obligé.
Et on l'a fait nous-mêmes avant d'obtenir des postes.
Parfois, on est obligé d'avoir ce moment de spécialisation disciplinaire, mais il faut que ça arrive le plus tard possible. Donc, par exemple, au niveau de la licence, c'est absurde. C'est-à-dire que la licence, L1, L2, L3, on doit faire absolument de toutes les sciences sociales. Faire qu'une licence d'économie, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas de la faute des étudiants.
Comme ça n'a pas de sens de faire qu'une licence de sociologie.
Il faut de l'histoire, de la sociologie, de sciences politiques, de l'économie. Et éventuellement, après, en master, en thèse, on se spécialise un peu plus. Et si possible, pas trop longtemps et pas trop durablement. Et au lycée, je pense que Julia a raison. C'est-à-dire que s'il y avait un gros bloc histoire, sciences sociales, où tous les élèves de la première à la terminale avaient 6, 7, 8 heures par semaine à propos de l'histoire sciences sociales, je pense que ce serait mieux que cette espèce de division de pit de guéguerre parfois entre les profs d'histoire et les profs de sciences économiques sociales qui parfois vont se retrouver à jargonner peut-être un peu plus que nécessaire pour se différencier des historiens qui jargonnent moins mais qui parlent moins de classe sociale, de chômage, etc. Donc chacun se différencie d'une façon qui est parfois pas forcément super constructive, parce que en fait c'est quand même un peu les mêmes matières, tout ça, surtout pour des lycéens.
Et puis il faudrait faire plus d'histoire de la pensée. Parce qu'on sert un peu. Non, mais je veux dire, si on fait de l'histoire de la pensée. On appelle ça souvent histoire de la pensée économique. Il ne faudrait pas que ça s'appelle comme ça. Mais justement, si vous faites relire vos étudiants jeunes, Smith, Ricardo, vous leur faites lire Marx, etc., c'est pas des monomaniaques d'une seule discipline. C'est des visions qui sont à la fois historiques, sociologiques, économistes, sciences politiques. Et je pense qu'on ne les lit pas assez. Si on relisait plus tous ces grands auteurs qui ont marqué les disciplines et qu'on étudiait.
Qui parlent d'ailleurs des élections de leur temps, c'est-à-dire qu'à la fois Marx, Tocqueville, beaucoup, les élections de 1848, ça les forme intellectuellement, parce que ce qu'ils voient autour d'eux, une révolution en marche, etc., ils prennent des positions radicalement opposées, mais on voit le moment où ils s'arrêtent. Alors que si on reste au jargon des concepts théoriques, etc., ça ennuie tout le monde, et en plus, c'est pas le fond de ce qui les a formés intellectuellement. C'est quand même les luttes de classe qu'ils ont vues en ayant des bords différents, d'ailleurs dans le cas de Tocqueville et de Marx, mais dans les deux cas, ça les a profondément marqués. Donc remettre cette histoire de la pensée économique et politique, mais dans le cadre aussi d'une histoire elle-même économique, sociale, politique, ça fait du bien.
Merci beaucoup.
Non, merci.
Merci d'avoir accepté de répondre à la question.
Avec plaisir. Merci. Voilà.